Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et on se lundi 12 juillet comme un bond en arrière. Le 29 avril, Emmanuel Macron voulait, je cite, « tourner la page de ce moment de la vie de la nation ». Le 12 juillet, nouvelle allocution solennelle qui sont les restrictions, ce sera à 20h. Vaccination obligatoire et extension du pass sanitaire. Nous ferons le point sur l'épidémie et nous serons avec un restaurateur inquiet pour la suite. Les Italiens, rois d'Europe, le capitaine de la Squadra Azzurra portait une couronne ce matin à son arrivée à Rome. Retour triomphal pour les champions. En Angleterre, l'échec à Wembley a viré aux insultes racistes contre trois joueurs, rappelant les mauvaises heures des hooligans. Dans RTL Midi aussi, un fauteuil pour quatre, Delphine Bateau, Yannick Jadot, Sandrine Rousseau et Éric Piolle sont candidats à la primaire écologiste, elle aura lieu en septembre. Mode d'emploi à suivre. Et si on partait en vacances en camping-car ou en van aménagé, vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier ce parfum de liberté en mode escargot. Là encore, le Covid a changé nos envies. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
C'est le mois de septembre ou le mois d'octobre, on est où exactement?
C'est vrai que l'impression donne une impression d'automne, je vous l'accorde, avec un temps bien gris et pluvieux. Alors un premier axe pluvieux des Pyrénées aux frontières du Nord. Autre axe avec des pluies soutenues, localement orageuses, entre une partie du massif central, le Lyonnais, le nord des Alpes, mais aussi entre la Normandie, l'ouest de l'Île-de-France et le nord Pas-de-Calais. Ailleurs un petit peu plus lumineux, disons un peu moins d'averses, un peu plus éclaircies sur l'ouest et très ensoleillé entre PACA et Corse avec un peu de vent. Tout ça sous des températures en baisse à l'ouest, de 17 à Cherbourg à 31 à Marseille, 22 à Paris, plus que 20 degrés à Toulouse alors qu'il en faisait 31 hier.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il rendre obligatoire le pass sanitaire au restaurant? Eh bien, vous êtes 60% à nous dire oui. Il y a 34% de non. J'attends vos appels au 3210 et je dialoguerai avec vous avec grand plaisir à partir de 13h.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Une allocution aux Français depuis l'Élysée à 20h. On est décidément englué dans ce jour sans fin. Le variant Delta nous oblige à repenser l'été et la rentrée, la vaccination et les réformes que souhaite le président. Un conseil sanitaire de défense a eu lieu ce matin avec deux sujets principaux, la vaccination obligatoire et le pass sanitaire, Vincent Derosier.
Et oui, comment imposer de nouvelles restrictions utiles sans reconfiner ni rétablir un couvre-feu? C'est tout l'enjeu de cette journée. Ce qui semble acquis, c'est cette vaccination obligatoire pour les soignants. À l'exception de la CGT notamment, le sujet fait presque consensus aujourd'hui. Faut-il la rendre obligatoire aussi pour tous les métiers en lien avec les personnes âgées ou fragiles, comme le réclament les présidents de département? C'est un point que le président doit trancher, comme l'extension du pass sanitaire à de nouveaux lieux, salles de sport, restaurants, cinéma. Pour l'imposer, il faudra une loi. La gratuité des tests est également un sujet de débat intense au sommet de l'État. Enfin, l'exécutif devrait mettre la pression pour que les contrôles aux aéroports, notamment, soit plus régulier et plus efficace. Les contrôles aux frontières et les règles d'isolement pourraient aussi être durcis pour les personnes qui reviennent, par exemple, du Portugal ou d'Espagne.
Bon, et finalement, Vincent, dans ce contexte, y aura-t-il d'autres annonces ou pas?
Oui, c'est certain. Le président veut dire ce soir ce qu'il compte faire de ces 10 derniers mois à l'Élysée. Et là, soyons honnêtes, il y a autant d'options que d'hypothèses émises par les proches du président. Autant dire que tout ça reste flou. Une grande réforme institutionnelle, c'est possible. Une allocation de rentrée pour les boursiers, une extension de la garantie jeune ou la fameuse réforme de la dépendance. Emmanuel Macron va devoir aussi faire un choix décisif sur la réforme des retraites qui a du plomb dans l'aile d'ici la présidentielle. Même François Bayrou, son ami, lui déconseille de s'y aventurer. Et si Emmanuel Macron décide de la repousser après 2022, ça sera forcément perçu comme un renoncement. Et déjà une candidature, autant dire que l'exercice est acrobatique.
Et les annonces, ce sera donc à 20h pile l'allocution de l'Élysée. C'est l'occasion de refaire aussi un point sur l'état sanitaire de notre pays, Sophie Jousselin. Le variant Delta a changé la donne et c'est un peu comme si on était revenu un mois en arrière finalement.
Oui, c'est vrai, à la mi-juin, on était effectivement autour de 4000 cas quotidiens, mais la tendance était à la baisse. Actuellement et depuis une semaine, la barre des 4000 cas est de nouveau franchie, mais à la hausse, signant le retour de l'épidémie. Le taux d'incidence remonte également. Alors certes, il est encore bas, à 34 pour 100 000 habitants, mais 7 départements dans le sud de la France et en région parisienne sont au-dessus du seuil d'alerte de 50. Pour l'instant, bonne nouvelle, la situation reste calme à l'hôpital, même si la baisse des admissions se tasse. Le nombre de malades du Covid en réanimation continue, lui, de baisser.
Alors la vaccination obligatoire pour les soignants est plus que probable. Quels sont les derniers chiffres?
Alors, dans Dans le secteur libéral, les trois quarts des soignants ont reçu leurs deux doses, mais ça inclut les médecins davantage vaccinés que les infirmiers ou les aides-soignants. Si on regarde dans les EHPAD, à peine la moitié du personnel est complètement vacciné. Dans le reste de la population, en moyenne, 4 personnes sur 10 le sont, mais avec de grandes différences selon les classes d'âge. Record chez les 75-79 ans, vaccinés à 85%. À l'opposé, moins d'un tiers des 18-39 ans le sont.
Et on le rappelle, la seule façon de se protéger reste le vaccin.
Oui, déjà la vaccination complète avec les vaccins Pfizer ou AstraZeneca réduit de plus de 60% le risque d'être infecté. Mais surtout, si on est contaminé, il protège à plus de 90% des formes graves, c'est-à-dire des hospitalisations. Et c'est ce qu'on recherche, éviter que les malades aillent à l'hôpital, qu'ils ne fassent que des formes légères.
Il faut que l'hôpital tienne. Merci Sophie. Pour aller plus loin, écoutons le témoignage de Johanna. Elle a perdu son père du Covid, une maladie qu'il a contractée dans un hôpital parisien. Elle accuse aujourd'hui l'exécutif de ne pas avoir rendu la vaccination des soignants obligatoire.
Le 13 mars, mon père est entré à l'hôpital pour une fracture de la hanche. Il a séjourné pas mal de temps. Il a été testé plusieurs fois négativement par rapport au Covid. Il était également en chambre isolée parce qu'il était immunodéprimé. Et malheureusement, il nous a quittés le 2 mai du Covid, donc au sein de l'hôpital, par le personnel hospitalier, car il n'avait pas le droit aux visites. Quand j'avais eu un docteur en leur disant est-ce qu'ils sont vaccinés, est-ce qu'ils sont testés, et en fait, ils m'ont répondu que c'était toujours pas obligatoire, en fait. Je m'adresse à l'État, déjà, premièrement, de rendre de la vaccination obligatoire pour le personnel soignant. Chaque jour de non-vaccination est un jour où des personnes meurent contaminées du Covid à l'hôpital.
Témoignage recueilli par Valentin Boisset. Si vous avez des proches qui ont été contaminés à l'hôpital ou si vous êtes vous-même soignant, témoignez au 3210. Vous aurez la parole à 13h. Emmanuel Macron pourrait donc faire des annonces ce soir aussi sur une extension du pass sanitaire, en particulier pour les restaurants. Pour l'instant, il n'existe qu'un simple cahier de rappel. Avec nous en studio, Stéphane Manigold, restaurateur et porte-parole du collectif Restons Ouverts. Bonjour.
Bonjour Christelle.
Le pass sanitaire, vous y êtes favorable ?
Non, mais je vais m'expliquer. Le pass sanitaire est un moyen supplémentaire de nous mettre au milieu de l'inefficacité de la vaccination, de la politique de vaccination en France. Et on ne veut pas être pris en otage entre cette vaccination, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le vrai succès de cette sortie de crise, c'est la vaccination. C'est pas le pass sanitaire. Pourquoi ? Parce que je vous donne un exemple. Celui qui veut aller à l'hôtel, s'il a le pass sanitaire obligatoire, bah, qu'est-ce qu'il fait ? Il va sur Airbnb, il loue une maison, il invite ses potes, ils sont plus de 200 et il n'a pas besoin de pass sanitaire pour faire cela. On l'a vu, il y a eu des infractions nombreuses qui ont été relevées lorsque nous étions fermés. Ça n'a pas empêché les gens de trouver des lieux qui ne sont pas des ERP, donc des établissements recevant du public, pour faire la fête et donc être des clusters.
On est d'accord, mais vous avez quand même une responsabilité, ça vous n'allez pas le nier. On sait que dans les restaurants, c'est potentiellement un grand lieu de contamination. Il y a, avec ce variant Delta qui est 40% plus contagieux. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas se contenter aujourd'hui du simple cahier de rappel, d'ailleurs qu'on ne demande pas à chaque fois.
Vous avez raison. Hein.
Parce que moi, je crois avoir signé une fois pour être allé 10 fois au restaurant, et je ne suis pas la seule.
Vous avez tout à fait raison, Christelle, mais vous l'avez souligné, la responsabilité d'un chef d'entreprise, que je suis, c'est de prendre en compte le virus. Et nous n'avons pas attendu que les débats se mettent en place, puisque dès la réouverture de nos établissements, c'est-à-dire fin mai, nous avons mis dans le groupe une politique de vaccination sur la base du volontariat. Et je vous le dis, à aujourd'hui, 100%, je dis bien 100% de mes collaborateurs, c'est-à-dire une centaine de salariés, sont vaccinés pour la deuxième dose. Donc vous voyez bien que la responsabilité, nous l'avons, nous ne sommes pas insouciants.
Vis-à-vis de vos collaborateurs, mais l'avez-vous vis-à-vis de vos clients ?
Bien sûr, puisque nous protégeons dans un premier temps, et c'est le premier rôle du chef d'entreprise,
oui,
c'est de
dites,
protéger.
Je suis contre ensuite, le pass sanitaire.
Non, c'est là, pas c'est... que je dis pas. Attention, je dis juste que le pass sanitaire, ça doit être au fond le dernier recours. C'est-à-dire que là, on est à. Je vais m'expliquer plus clairement. Vous avez même pas la moitié de la population française qui est vaccinée. Vous avez l'absence de tourisme pour notre économie. On va parler deux secondes d'économie. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que vous allez vous couper à la fois des touristes qui ne sont pas, notamment dans les grandes métropoles comme Paris. Vous allez pouvez-vous couper demain si le pass sanitaire est mis en place? Mais il ne le peut pas, soyons clairs, puisque juridiquement, le moyen législatif en place ne le permet pas, du reste.
Pour l'instant, ce n'est pas possible, mais le président de la République peut tout à fait annoncer,
la loi, bien sûr.
Annoncer une loi, comme il va sans doute le faire pour la vaccination obligatoire des soignants.
Il faut, alors dans ce cas-là, si le président de la, je ne suis pas son conseiller, mais si le président de la République nous écoute, eh bien qu'il laisse suffisamment de temps, c'est-à-dire au moins jusqu'au mois de septembre, pour pouvoir mettre en place ce pass et d'inciter les Français et les Françaises à se vacciner. La sortie de crise, elle est là, c'est de se faire vacciner. Aujourd'hui, et je vous le dis clairement, nous avons des problèmes de riches. Quand je vois l'Inde, moins de 20% de la population est vaccinée, soit 300 000 personnes seulement vaccinées, ils rêveraient de pouvoir se faire vacciner. Alors je le dis à tous les Français et Françaises, faisons-nous vacciner. C'est vraiment la sortie. Ce virus, il est terrible. La science a fait des progrès incroyables, a battu tous les records. Nous avons tous détruit, à date, 14 mois de notre vie, parce que justement, nous avons été fermés, on a eu des restrictions. 14 mois de notre vie, c'est terrible, et on n'en voit toujours pas le bout du tunnel. Il faut se faire vacciner.
Est-ce que vous redoutez un nouveau confinement à la rentrée ?
Un confinement, à nouveau, juridiquement, ce n'est pas possible, mais des fermetures de nos commerces,
de restaurants, de bars.
Bah, malheureusement, c'est ce qui nous pend au nez si la vaccination ne s'accélère pas. Il faut vraiment que la vaccination s'accélère. Et moi, je veux bien conseiller notre ministre de la Santé, Olivier Véran, pour lui montrer à quel point, lorsqu'on fait confiance aux chefs d'entreprise et qu'on travaille avec les élus locaux, moi, je me suis mis en rapport avec le maire du 17e, 100% de nos salariés sont vaccinés. Plus de 100. En une semaine, on a vacciné tout le monde. Vous vous rendez compte? Et on est fin mai, début juin. C'est là où on a vacciné tout le monde. La sortie de crise, elle est là. C'est la vaccination.
Merci beaucoup. Merci Stéphane Manigold, restaurateur et porte-parole du collectif. Restons ouverts. Évidemment, on peut poursuivre ce dialogue tous ensemble au 32-10. Si vous souhaitez assister au défilé du 14 juillet, mercredi, vous faudra être muni d'un pass sanitaire et porter un masque. Une jauge sera appliquée pour réguler l'accès le long de l'avenue des Champs-Élysées. La préfecture de police de Paris recommande aux spectateurs de se présenter à l'avance. Un périmètre de protection sera instauré de 6h30 à 14h. Dans un instant, retour triomphant à Rome pour les Italiens, vainqueurs de l'Euro de football.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
12 millions de téléspectateurs ont suivi sur M6 hier soir le sacre de la Squadra Azzurra à l'Euro de football. Une soirée à rallonge qui s'est achevée au tir au but. Les Italiens ramènent la coupe pour la première fois depuis 53 ans. Et le retour ce matin à l'aube a été triomphal. Le capitaine de l'équipe, Giorgio Chiellini, était même coiffé d'une couronne. Et la journée sera longue, Olivier Bonnel.
Oui, je peux vous dire que la nuit a été courte pour de nombreux Italiens. La fête s'est prolongée tard ici, où les klaxons, les cornes de brume et les fumigènes tricolores ont égayé la nuit. Nuit courte également pour la Squadra Azzurra qui a atterri à Rome au petit matin de retour de Londres avant d'être transférée dans un hôtel du centre de la ville. Une arrivée bruyamment fêtée par 200 tifosi. Le capitaine Giorgio Chiellini est descendu le premier du bus, couronne sur la tête et coupe dans les mains. Une parade en bus découvert aura peut-être lieu dans les rues de Rome cet après-midi comme en 2006. Les champions d'Europe ont eux en tout cas un agenda très serré. Ils seront reçus à 17h au Quirinal par le président de la République italienne, puis par le chef du gouvernement Mario Draghi.
Olivier Bonnel, correspondant d'RTL à Rome. Côté anglais, c'est plutôt la gueule de bois et pas seulement à cause de la défaite. À l'issue de la séance de tir au but, trois joueurs qui ont échoué ont essuyé une vague de propos racistes sur les réseaux sociaux. Boris Johnson, le Premier ministre, s'indigne sur Twitter. Cette équipe d'Angleterre mérite d'être traitée en héros. Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d'eux-mêmes. Fin de citation. Et ces insultes, Marie Billon, rappellent les comportements des hooligans dans les années 90.
Oui, et ça ne date pas de la finale, hein, puisqu'à chaque match, les joueurs anglais ont mis un genou à terre en symbole de soutien à la lutte contre le racisme, mais ils se sont toujours fait huer. Là, ce sont surtout sur les réseaux sociaux que ces insultes ont été lancées, des émoticônes, un singe, une banane, notamment à l'encontre de trois joueurs, Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho. Gareth Southgate estime que ces attaques sont impardonnables. Il l'a dit ce matin lors d'une conférence de presse. Nous sommes dégoûtés, a écrit sur Twitter l'équipe d'Angleterre. Les joueurs ont tout donné pour le maillot cet été. Le prince William, qui est président de la fédération de football en Angleterre, s'est dit écœuré. La fédération elle-même a émis un communiqué. Elle parle de comportement dégoûtant, a précisé qu'il y aurait des conséquences avant de demander à Twitter de rassembler des preuves en vue de poursuite, car la police métropolitaine de Londres a lancé une enquête. Ces comportements inacceptables ne seront pas tolérés, a-t-elle déclaré. Et pour contrecarrer toutes ces insultes, de nombreux fans ont envoyé des messages de soutien et d'affection aux trois joueurs ciblés.
Marie Billon, correspondante RTL à Londres, en direct. Qui représentera les écologistes pour l'élection présidentielle au printemps prochain? Ils sont quatre sur la ligne de départ. Leurs parrainages ont été validés la nuit dernière et ils s'affronteront lors d'une primaire en septembre. Primaire qui a été présentée ce matin dans une brasserie parisienne. Alors à quoi va-t-elle ressembler, Marie-Bénédicte Allaire?
Eh bien, elle sera ouverte à tous ceux qui le souhaitent à partir de l'âge de 16 ans. Le vote se fera en ligne. On peut s'inscrire dès maintenant sur la plateforme lesécologistes.fr. moyennant 2 euros. Et il y a donc effectivement deux femmes et deux hommes sur la ligne de départ. Le député européen Yannick Jadot, le maire de Grenoble, Éric Piolle, mais aussi Sandrine Rousseau.
Je suis écologiste, féministe, économiste. Je suis enseignante, chercheuse à l'université. Je suis une mère et je suis une combattante.
La quatrième, c'est la députée ex-socialiste Delphine Bateau, désormais à la tête de son propre mouvement, Génération Écologie.
Je porte l'autre écologie. Celle qui assume sa dimension régalienne et républicaine. L'accélération du changement climatique, ça devient une question de sécurité nationale.
Premier enjeu, mobiliser largement pour donner une impulsion aux futurs candidats. Chacun des quatre prétendants le jure, la main sur le cœur. Cette fois, contrairement à 2017, pas question de s'effacer derrière quiconque. Les socialistes, et notamment Anne Hidalgo, sont donc prévenus.
Marie-Bénédicte Allaire, pour vous, les vacances, c'est comment? En location, à l'hôtel, au camping ou itinérant? De plus en plus de Français choisissent les camping-cars et autres vannes aménagées et le Covid a dopé le marché, plus 12% en 2020, d'après la Fédération européenne du caravaning. À Toulouse, les acquisitions de vannes ont même bondi de 50%, Benjamin Pelsy.
Et pour ces néo-campeurs, récupérer les clés du van aménagé, c'est un peu comme découvrir une nouvelle maison.
Un feu-gaz.
Vous avez un évier également ici.
Vous avez une banquette-lit.
On tire le cadre du lit jusqu'au bout et on déplie les trois matelas.
Ça a l'air assez confortable et pratique en tout cas.
Céline et son fils de 7 ans vont camper pour la première fois.
On était tous les ans d'habitude dans des campings avec des mobil-homes.
Dehors, Benoît essaie d'installer des sièges enfants dans son van.
C'est très compliqué à mettre dans une voiture normale, mais dans le van, c'est pas forcément plus facile.
Il a déjà testé ce type de camping un week-end en famille et face au Covid, ce mode de vacances s'est imposé.
Un gros besoin de liberté.
Pas être bloqué, pas être obligé, si on va dans des hôtels, mettre le masque quand on rentre, quand on sort.
Là, c'est un camping-car grand luxe.
Oui, c'est l'aventure, mais pas trop.
Eh bien, c'est tout bon, on est pas mal.
À la tête du réseau de location Vanaway, Jean-Philippe Ferton a vu ses nouveaux campeurs remplacer sa clientèle étrangère.
On a beaucoup de nouveaux utilisateurs qui testent ça pour la première fois, parce que les conditions du moment s'y prêtent. Le but, c'est vraiment d'être libre, d'aller où on veut, de se garer au bord d'une rivière, au bord d'un lac, au bord de la mer, en pleine campagne.
Et certains lui achètent même le van à la fin de leur séjour.
Il y a énormément, en effet, de gens qui testent le concept à la location et qui sont tellement conquis qu'ils nous les achètent en fin de saison. C'est des vannes dans lesquelles vous avez maintenant le chauffage, donc on n'a plus froid la nuit du tout. Il y a vraiment beaucoup de confort.
Il faut tout de même compter entre 35 et 60 000 euros pour un van tout confort.
Et si vous êtes des amoureux du camping-car ou du van récemment converti ou pas, appelez-nous au 3210, j'attends vos témoignages. À partir de 13h, Les Diamants sont éternels. Ce film retrouve une actualité à Cannes en marge du festival. Des bijoux ont été dérobés dans la chambre d'hôtel de l'actrice Jodie Turner-Smith. On ne sait pas encore si ces bijoux lui appartenaient ou s'ils lui avaient été prêtés par une marque. L'enquête est en cours. Un peu de repos avant de réattaquer les Pyrénées. Le Tour de France est off aujourd'hui en Andorre. RTL chez vous dans un instant.
RTL Mire. Tour de France 2021. RTL chez vous.
Christophe Paco.
Et on vous retrouve, Christophe, bonjour.
Bonjour à tous. RTL chez vous en Andorre pour cette deuxième journée de repos sur le Tour de France. Le coup de cœur de Laurent Jalabert, coup d'oreille du Parisien à l'histoire du Tour et rencontre du jour. RTL chez vous, c'est parti.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
RTL chez vous, en Andorre, on est à peu près gâté par le ciel aujourd'hui, ça n'a pas été simple depuis le début du tour. Quelle est la particularité, Marc Coma, d'Andorre que vous connaissez si bien?
Bon, l'Andorre, c'est, comme moi toujours j'ai dit, c'est un petit grand pays. Disons, on est petit, mais on est très grand parce qu'on fait des choses comme les grands. Mais ce qui est bien d'Andorre, c'est que comme on est petit, on peut faire les choses plus vite. On a fait des trucs merveilleux, on a fait des Coupes du Monde de vélo, à part le Tour de France à Palarinsal, on a fait des Coupes du Monde de ski au Tarté. On fait des trucs que normalement c'est très difficile à faire dans un grand pays, mais ici on est bien, on se connaît tous, avec le chef de guerre, on a les ministres, etc. Et c'est facile à faire les choses.
Et il y a des grands champions en plus qui habitent comme notre champion du monde, je dis en Philippe. Hein.
Oui, bon, en Andorre, ce qu'on a très bien fait aussi, c'est qu'on a beaucoup de cyclistes qui vivent en Andorre, ceux qui courent autour. On paye un peu moins d'impôts parce qu'on a moins de gens qui travaillent pour le gouvernement. Mais à part ça, c'est un pays qui a une sécurité. invraisemblable. Là, vous pouvez laisser la voiture ouverte, personne ne va vouloir toucher.
Merci beaucoup d'être venu dans RTL chez vous. On en dort aujourd'hui. Bonne journée.
Merci beaucoup, à vous, au revoir.
Christophe Paco, RTL chez vous.
Avec le président de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, David Lapartien, président. J'imagine heureux, monsieur Lapartien, que le vélo prenne de plus en plus de place finalement dans la vie des gens aujourd'hui.
Bah, il va bien pour le grand public. D'abord, pendant la crise du Covid, tout le monde s'est mis à faire du vélo. Tout le monde a découvert, redécouvert le vélo, ce qui est bien.
La famille vélo va bien, pas trop d'histoire aujourd'hui, c'est un vélo qui roule. En tant que président de l'UCI, vous êtes content que ça se tasse un petit peu, non?
Bah, on est content, d'abord on est content parce qu'au niveau du Covid, on a su jouer solidaire. Et puis, on continue de surveiller les sujets qui, pour nous, peuvent être des vrais sujets d'actualité. Toujours les sujets de dopage, les sujets de fraude technologique. Et c'est des sujets où on est vigilant. C'est le rôle de la Fédération internationale, mais il me semble qu'on a la chance d'avoir de très très beaux acteurs, des coureurs comme Van Der Poel, comme Alaphilippe, comme Sagan, ils font un bien fou au vélo.
Merci David Lapartien, président de l'UCI, faut-il le rappeler, l'organisme mondial qui gère le cyclisme. Merci à vous, bonne journée.
Merci.
Christophe Paco, RTL, chez vous.
Journée de repos en Andorre, Laurent Jalabert, bonjour à vous.
Bonjour Christophe.
Le peloton est très fatigué, bien sûr, on récupère, mais quand on regarde ce qu'il y a devant nous, trois étapes de montagne, un contre la montre et des sprints, il va falloir garder des forces, il va falloir encore être très très bon pour tenir jusqu'au bout.
Oh oui, il va falloir être bon. Le menu est corsé, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Trois étapes de montagne, deux sprints au programme et un contre-la-montre. Autant vous dire que beaucoup de coureurs vont simplement passer la semaine à essayer de survivre et de voir la Tour Eiffel au bout du compte. Et c'est bien l'objectif pour la plupart d'entre eux.
Quel tour difficile quand même, hein.
Ouais, c'est un tour difficile, mais ils sont partis sur les chapeaux de roue. Ça a frotté beaucoup, c'est tombé pas mal. Il y a eu du mauvais temps et c'est pas terminé. On prévoit encore de la pluie cette semaine dans les Pyrénées. On n'est pas au bout d'une surprise, je pense, côté difficulté, pour la plupart des coureurs dans le peloton, ça va être terrible.
Méfiance, vigilance au programme, notamment de ces trois jours encore dans les Pyrénées. Laurent Jalabert, on se retrouve ce soir pour votre club Jalabert. À quelle heure?
18h30, 19h, Christophe.
À tout à l'heure, bonne journée.
Merci.
Tour de France 2021. RTL, chez vous. Christophe Paco.
En Andorre, avec notre confrère, le spécialiste vélo parisien aujourd'hui en France. Bonjour à vous, Christophe Bérard.
Salut Christophe.
Alors aujourd'hui, dans le Parisien, on a découvert une nouvelle interview de Marc Maillot, qui était notre invité la semaine dernière. Il continue ce combat ?
Exactement. En fait, c'est vraiment un combat qui lui tient à cœur. Pour être très franc, quand on l'a sollicité sur ce Tour de France, Marc Maillot m'a dit « J'ai 1 million de choses à faire, mais pour parler sécurité, je vais prendre le temps qu'il faut. » C'est vraiment son cheval de bataille. Et quand on l'a rencontré, moi, c'est pas un patron d'équipe que j'ai vu. C'est clairement un type qui avait peur, mais pas peur pour lui, mais pour ses gars. Il nous a livré cette statistique presque incroyable. Il a dit « J'ai fait les comptes. Presque un tiers du peloton qui s'est déjà cassé la figure sur ce Tour de France. » Ça veut dire que les gars aujourd'hui, ils prennent la route avec une chance sur trois de se faire très très mal. Et ça, Madio, et je pense à raison, il tire la sonnette d'alarme parce qu'il dit, on sait presque tous, nous les médias, les suiveurs, le public, presque les coureurs, on s'est habitué à ce que les chutes fassent partie du spectacle, alors que non, les chutes ne font pas partie du spectacle, elles peuvent être gravissimes. Il en appelle une prise de conscience et je vous incite vraiment à lire l'interview de Marc Madio. Pour moi, il a une force qui va dépasser les prochains jours.
Oui, on verra la suite, bien sûr, cette semaine, pour la fin du Tour de France. Merci à vous, Christophe Bérard, et à demain.
À demain, merci.
RTL.
Vélo va, vélo vol.
Fenêtre sur tour.
La voix va, ou vélo va.
Avec Christian Laborde.
Comme tous les jours, l'histoire du tour, avec vous, Christian Laborde.
Les journées de repos ne sont pas toujours de tout repos, surtout lorsque Jacques Anquetil festoie. 5 juillet 1964, journée de repos à Andorre-la-Vieille. Jacques Anquetil est enfermé dans sa chambre. Il dit qu'il va mourir. Il ne fait que répéter ce que le mage Béline a écrit dans France Soir. Anquetil trouvera la mort du côté d'Andorre. Le téléphone sonne à l'hôtel. C'est Radio Andorre, pour Gemignani, directeur sportif d'Anquetil. Allô, Gem ? On organise un méchoui. Tu viens ? Je viens. Gemignani frappe à la porte de Jacques. Jacques, ça te dit un dégagement ? Quel genre de dégagement ? Un méchoui. J'arrive. Et Anquetil, au lieu d'aller s'entraîner comme Poulidor, de savourer méchoui et sangria. Le lendemain, lors de l'étape Andorre-la-Vieille-Toulouse, Poulidor attaque dès le pied d'Envalira. Anquetil, mal en point, accuse au sommet du col un retard de 4 minutes sur Poulidor. Anquetil avale le bidon rempli de champagne brut que lui tend Gemignani et se lance dans la descente noyée dans le brouillard. La descente effectuée, Jacques revient sur Poulidor, le double et franchit la ligne d'arrivée avec 2 minutes d'avance sur Poulidor. Méchoui, Champagne, Grand Braquet, Anquetil, c'est Anquetil, point barre.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Bon repos aux coureurs avant la toute dernière et longue ligne droite bien bosselée vers Paris. Et puis rendez-vous ce soir 18h30 dans votre club Jalabert avec un invité exceptionnel, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
Le Tour de France, c'est le rêve de tous ceux qui ont un vélo. La seule espérance du titi, de la fête et du mécano.
RTL Midi.
Et revoilà Peggy Broche pour la météo. L'accalmie aura été de courte durée, Peggy.
Oui, c'est vrai Christelle, parce que là c'est parti à nouveau pour un temps perturbé et pluvieux pendant quelques jours. Il faudra attendre la fin de semaine pour une véritable amélioration. En attendant, cet après-midi, c'est gris et pluvieux sur les trois quarts du pays, des Pyrénées au nord-est, des averses localement soutenues et orageuses sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi au nord, entre la Normandie, l'ouest de la région parisienne et le Nord-Pas-de-Calais. C'est ce qui nous attend cet après-midi. C'est un petit peu plus lumineux, avec un peu moins d'averses sur l'ouest, entre la Bretagne, le centre et l'ouest de l'Aquitaine. Et puis toujours très beau entre PACA et Corse, avec un vent sensible près de la Méditerranée, mais aussi sur les Pyrénées. Les températures, elles sont en chute libre à l'ouest, surtout dans le sud-ouest. 17 à Cherbourg, 17
mais
à Tarbes, 10 degrés de moins qu'hier.
N'importe quoi.
Oui, c'est du n'importe quoi, je vous l'accorde. 20 degrés à Montauban, il en faisait 30 hier hein, quand même. 21 à Bordeaux, 22 à Paris, 23 à Lille, 26 à Strasbourg. Sur l'Est, ça reste doux. 28 à Lyon et Nîmes et 31 quand même à Montélimar.
Et demain, on remet ça ?
Oui, un temps gris, pluvieux, avec des orages. Alors, quasiment partout, les orages sur la région centrale du pays et sur le nord-est, où les pluies d'ailleurs seront soutenues, notamment dans l'après-midi. Seule région à l'écart du mauvais temps, demain, la pointe bretonne pour le matin, le long des côtes de la Manche l'après-midi. Et puis le ciel sera toujours plus lumineux avec un risque d'averse très faible et toujours très beau près de la Méditerranée et en Corse. Et la fraîcheur va gagner l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que même à l'est, il fera beaucoup plus frais. On peut perdre 5 à 7 degrés. 14 à Aurillac, vous avez bien entendu, pour les maximales. Jusqu'à 31 quand même à Nice, 19 à Strasbourg, 20 à Agen et 21 à Paris. J'ai pas mieux à vous proposer pour l'instant.
Quel été ! Revenez demain quand même. Hein.
Je vais faire ça.
Merci Peggy. Il est 13h sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
Et oui, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Nous allons dialoguer si vous nous appelez dès maintenant au 3210. Alors, vous vous souvenez, la question du jour aujourd'hui, faut-il rendre obligatoire le pass sanitaire au restaurant, puisqu'il pourrait en être question. On attend évidemment les annonces d'Emmanuel Macron ce soir. Bonjour Aurore, pour ou contre ?
Bonjour Madame Robière. Mais écoutez, pour moi, de nouvelles restrictions sont nécessaires, mais l'extension du pass sanitaire est largement à nuancer.
Bon, ben, on y vient dans un instant. Merci Aurore. Le rappel des titres, donc, Emmanuel Macron face aux Français. Allocution à 20h, le variant Delta a rattrapé nos traités, notre besoin de liberté et les réformes que souhaite faire le Président. Un conseil de défense sanitaire a lieu ce matin à l'Élysée pour valider certaines mesures et notamment une obligation vaccinale pour les soignants ou encore une extension du pass sanitaire. Le variant Delta est 40% plus contagieux. Prudence aussi pour le défilé du 14 juillet à Paris. Les spectateurs qui souhaiteront assister au défilé militaire devront être munis d'un pass sanitaire et porter un masque. Une jauge sera appliquée pour réguler les personnes le long de l'avenue des Champs-Élysées. Le système COVAX va recevoir 110 millions de doses de vaccins de la part de deux sociétés chinoises. COVAX, vous savez, c'est ce mécanisme de solidarité mis en place par l'Organisation mondiale de la santé pour que les pays pauvres aient accès aux vaccins. Seul 1% de leur population a été immunisée. La nuit a été courte pour les héros italiens. La journée sera longue avec leur retour triomphal. Ils sont champions d'Europe pour la première fois depuis 53 ans. À l'inverse, en Angleterre, la défaite tourne à la polémique après des insultes racistes contre trois joueurs qui ont raté leur tir au but. Boris Johnson les dénonce vivement et affirme que leurs responsables devraient avoir honte d'eux-mêmes. Pierre Ménès ne reviendra pas sur Canal+, mis sur la touche depuis fin mars après des accusations d'agression sexuelle. Le chroniqueur vedette du Canal Football Club a trouvé un accord financier avec la chaîne cryptée avec laquelle il collaborait depuis 12 ans.
Et les petites histoires olympiques ? Jean-Michel Rascol sur RTL.
Cet été sur RTL, avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, nous allons vous mettre l'eau à la bouche avec des petites histoires olympiques. Aujourd'hui, celle de Colette Besson. En 1968, cette athlète inconnue signe l'une des plus belles épopées françaises de l'histoire des Jeux. Colette Besson, étoile du 400 mètres dans le stade de Mexico, devient, en un tour de piste, la petite fiancée des Français. Jean-Michel Rascol.
16 octobre 1968, la France cicatrise à peine de son printemps enflammé lorsqu'une athlète quasiment inconnue, Colette Besson, capte soudain toute l'attention. Daniel Herrero, qui deviendra un grand chevalier d'Ovalie, n'est encore qu'un simple étudiant, tout juste descendu des barricades. Il va se passionner comme des millions de Français pour la finale olympique du 400 mètres que la jeune femme aux généreuses couettes brunes va disputer à Mexico.
Je suis moi, mon meilleur ami, c'est Marcel Ruffaut, un psychiatre, mais il fait ses études comme moi. On est à Marseille en tant qu'étudiant. Je loue dans une petite ture dans l'ancienne, on loue une petite télévision en noir et blanc le matin de la finale olympique du 400 mètres. Colette Besson, elle est mignonne. Elle est mignonnette. Je l'observe pendant la course, tu vois, la nôtre. Oh, je ne sais pas pourquoi. Une espèce de percussion, d'éclat, comme ça. La dernière ligne droite qui s'annonce, elle n'est pas radicalement en tête, mais elle n'est pas trop en retard. Et alors, on la voit sortir comme une explosion de guerrière, tu vois, sacrificielle. On la voit une petite enfant de France, tu vois. Déjà, le dendoline, à mon sens, c'est le dendoline un peu du cap. Tu vois, on sent que l'affaire va devenir complexe. Tu vois, elle perd peut-être de l'allure générale. Mais il me semble que l'anglaise qui est à côté d'elle, elle est un peu dans ce... Et alors, c'est une... J'ai la sensation, mais non pas qu'elle sort du ciel, tu vois, qu'elle arrive dans la lumière comme ça, mais j'ai plutôt la sensation qu'elle sort de terre, quoi. Qu'elle sort de terre, comme si à cet instant-là, on s'est dit, il va y en avoir une de France qui peut nous amener quelque chose qu'on n'a jamais connu dans notre histoire, quelque chose qui ressemble à une guerrière de la gloire française.
Cinquième à la sortie du virage, première à l'arrivée, un souffle bleu, presque un moment de partage.
La grande image pour moi, c'est la rentrée dans la ligne droite en sortant de la terre de la nuit. Tu vois, comme si on ne sait pas d'où elle arrivait, comme ça. Mais en plus que la guibole qui tourne. Quand tu t'arraches le ventre et que c'est une joie pour les hommes, quoi, tu vois. C'est une joie quand tu te dis... Et que tu as la sensation qu'une partie de son bonheur à ce moment-là, c'est pour nous.
Non, je ne pensais pas à la gagner, mais enfin, après 300 mètres de course, je me suis dit, pourquoi pas, tu es très bien, continue, allez, et puis ça s'est passé comme ça.
Colette Besson devient la petite fiancée des Français. Elle s'éteindra le 9 août 2005 à seulement 59 ans. 80 stades portent aujourd'hui son nom, synonyme d'exploit et de persévérance.
Merci Jean-Michel Rascol pour ce portrait de Colette Besson.